Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 3 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Benjamin Muller. Dans un instant, on va parler de cette proposition de Pauline Deroulède d'abolir le permis de conduire à vie en instaurant des visites médicales tous les 10 ans pour les conducteurs. Bonne ou mauvaise idée? On vous attend au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. À 14h, on parlera de couple. Faut-il parler de son passé à son conjoint? Est-ce une bonne idée de tout lui raconter? On attend vos témoignages sur l'application RMC. Rubrique Direct Studio. Rémi Barré se fera un plaisir de les filtrer et nous raconter tout ça. Et puis il y aura bien sûr les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à la proposition du jour. C'est celle de Pauline Deroulède, militante de la sécurité routière et championne de tennis handisport. 4 ans après avoir été fauchée par un conducteur de 92 ans, elle réclame l'abolition du permis de conduire à vie. Mais que demande-t-elle concrètement, Rémi?
Eh bien qu'un contrôle médical soit régulièrement imposé à tous les automobilistes pour s'assurer que certaines personnes à risque ne puissent plus se mettre derrière un volant. Des tests qui pourraient toucher beaucoup de monde, beaucoup de personnes, les 75 ans et plus représentés 9,5% de la population en France en 2021. Ce sera même 18% en 2070, d'après l'INSEE. Par ailleurs, des maladies dégénératives peuvent frapper tôt dans l'existence. En moyenne, la baisse de la vue, elle commence des 40 à 45 ans, ce qui peut provoquer des conduites dangereuses. Ailleurs, à l'étranger, de nombreux pays d'Europe conditionnent d'ailleurs déjà le maintien du permis de conduire à un examen médical régulier. C'est le cas en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark ou encore en Grèce, entre autres. En fait, la France est l'un des rares pays où le permis est donné à vie, sans mise à jour ou vérification de l'état des conducteurs, à de rares exceptions près, comme les personnes atteintes de diabète. Reste que la question d'un permis révocable, elle reste sensible. D'abord parce que imposer un examen à 40 millions d'automobilistes, forcément, ça a un coût. Mais aussi et surtout parce que, pour une immense majorité de Français, devoir se passer de voiture est tout simplement inenvisageable. C'est particulièrement le cas en dehors des grandes villes, faute de solutions alternatives de transport. Il y a un sondage récemment qui a été fait où on nous dit que 81% des Français estiment ne pas pouvoir se passer de voiture. C'est 92% pour ceux qui vivent en zone rurale.
Faut-il abolir le permis de conduire à vie? On sera avec Pierre Chasseret dans un instant dans Estelle Midi. Mais d'abord, on est avec vous, Benjamin Muller.
Oui. Évidemment, et je trouve ça complètement injustifiable de le faire autrement. Quand on dit que c'est 40 millions de personnes qui vont devoir aller faire un test médical, si c'est tous les 10 ans, alors certes, ça a un coût, mais moi, je fais du sport, j'ai une licence de handball, tous les 3 ans, je vais chez le médecin faire un petit check-up, qui par ailleurs fait jamais de mal, c'est toujours l'occasion de discuter avec le médecin, etc. Donc, je suis pas sûr que pour les finances publiques, ce soit vraiment un drame. Pauline Deroulède, faut quand même rappeler son histoire, c'est-à-dire qu'elle était assise sur un scooter à l'angle de la rue de Danzig et la rue de la Convention. Pour les gens qui connaissent, dans le 15e arrondissement de Paris, sa compagne était partie acheter des fleurs. Elle était tranquillement sur son portable, assise sur son scooter. Et un monsieur de 92 ans, qui s'est un peu endormi, etc., 92 ans quand même, il est foncé dedans, la pauvre, elle a perdu sa jambe. Traumatisme absolu. On se dit quand même 92 ans, c'est quand même âgé. Ouais. Et je veux bien croire que les gens qui nous entendent là, qui ont 75 ans, qui sont en pleine forme, se disent, bah attendez, moi je suis pas vieux, etc., mais un petit contrôle, c'est pas dramatique. Juste petite anecdote, moi, mon grand-père, qui aujourd'hui est décédé, m'emmenait régulièrement, justement, au handball ou à la musique quand j'étais plus petit, venait me chercher, etc. C'était un danger public. Franchement, je l'adorais, mais je vous jure, c'était n'importe. Il y avait une belle Mercedes. Une belle Mercedes à l'époque, c'était un peu la classe. Je rentrais dans sa voiture, mais je vous assure, il rentrait tout le temps dans les murets, machin. C'était n'importe quoi.
Ça faisait aussi, j'ai 45 ans.
et franchement, typiquement.
Pour d'autres raisons,
vous voyez l'état de mes jambes, c'est une catastrophe.
C'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres
Donc, typiquement, pour mon grand-père à l'époque, ça aurait valu le coup. Et je pense que c'est quand même du bon sens.
Oui, mais après, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont allés limite, mais ils n'ont que leur voiture. Alors là, je pense à Emmanuel Dancourt, enfin, les gens qui habitent à la campagne.
Mais Emmanuel Dancourt est un peu plus jeune, quand même.
Non, mais je pense pas à Emmanuel. Enfin, je vais dire merci, c'est gentil. Je vais pas lui enlever sa bagnole. Mais t'as des gens qui vivent à la campagne et s'ils ont plus leur voiture,
mais pourquoi ils auraient plus leur voiture? Déjà, tu fais faire un examen, ça se trouve, ça va les rassurer eux, ça va rassurer leur entourage. Alors, on devait avoir le même grand-père, sauf que moi, il n'avait pas de Mercedes. Moi, j'avais un grand-père, mais c'était un terroriste de la route, quoi. Et on n'a jamais pu, parce qu'on pourrait lui enlever son permis, mais ça l'empêche pas de rouler. On aurait pu vendre la voiture. On s'est posé des tonnes de questions.
Il aurait fait quoi, son voiture?
Sauf, ils habitaient dans un petit village dans le Jura, ils circulaient plus tant que ça, mais même le peu qu'il utilisait, ma grand-mère se tenait. Vraiment, enfin, c'était un truc de fou. Et moi, plus jamais, je n'ai voulu monter avec lui. J'étais encore gamine à l'époque. Mais on n'allait pas vendre la voiture, puisque ma grand-mère, elle conduisait bien. Donc, on n'allait pas priver mamie de sa voiture. Donc, c'était un dilemme. Et ça a été terrible, finalement. Il aurait pu tuer quelqu'un. Le nombre de fois, on s'est dit, on va se retrouver un jour avec la gendarmerie qui va nous appeler parce que papy aura tué quelqu'un. Et finalement, ça s'est pas trop. Ouais, mais bon, ça aurait pu. Enfin, les grands-pères et les grands-mères terroristes. Qu'est-ce que ça coûte de passer, oui, un examen? Alors, je lisais qu'il faudrait quand même former peut-être les généralistes pour un examen extrêmement particulier. Il faut tester la vue, mais pas seulement. Il faut tester les réflexes. Il faut tester l'ouïe également.
Bon, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. Oui, ça doit pas être une
mais
formation
ce qu'il faut
énorme.
Juste mettre un protocole en marche, si tu veux.
Avec un peu de bonne volonté, on y arrive.
Mais bien sûr. Et la plupart vont récupérer leur permis sans aucun souci. Et puis les autres, bah, peut-être qu'il y a des adaptations à faire. C'est peut-être pas tout de suite un retrait du permis. Il y a plein d'étapes avant ça. Voilà. Oui, mais regarde, si on peut sauver la vie d'une une jambe de Pauline Desroulettes ou la vie d'un enfant, il n'y a pas à tergiverser.
Sauf que tu peux faire des contrôles. À 45 ans, c'est l'âge où tu commences à être presbyte. Moi, franchement, il y a des panneaux, je suis comme ça. Je vais cligner des yeux. Je
me dis,
là, c'est ta responsabilité individuelle.
Je me dis, il faut vraiment que j'y aille. Bon, je vais y aller. Après, je vois quand même très bien. Mais bon, il y a des moments où, effectivement, il faut quand même accommoder un peu la vue.
Prenez rendez-vous maintenant, comme il faut un an avant de voir un ophtalmo.
Mais par exemple, si tu veux, tu peux aussi demander à repasser le code. Moi, je suis pas sûre aujourd'hui, on me fait repasser le code. Enfin, si je suis sur un truc, c'est que j'aurais plus de 5 fautes, c'est sûr.
Ça t'a pas fait le coup, moi. J'ai ma fille qui a fait la conduite accompagnée, qui a son permis aujourd'hui, parce qu'elle a 20 ans. Le nombre de fois, elle me corrige sur des trucs, et j'ai dit, voilà. Le pire, c'est qu'elle a raison, quoi. Elle m'a dit, maman, tu t'es trompée, là, sur le rond-point.
Et là, tu t'es trompée, en fait, de perdre ta voiture, alors que.
Mais tu serais pas volontaire, toi, pour juste repasser le code et repasser le permis, juste pour.
C'est hyper chiant.
Sans le repasser, mais juste faire une mise à niveau.
Non.
Même si on te retire pas ton permis.
J'ai jamais eu d'accident, je vais pas faire une mise à niveau.
Ah ouais.
Non.
Moi, je suis volontaire.
Perico Legas obligeait en fait les plus de 60 ou 70 ans à faire un check-up, ça vous paraît logique?
Oui, je rectifie le terme terroriste, on va dire danger public. C'était un danger public.
Ouais,
un terroriste, c'est quelqu'un qui veut terroriser quelqu'un.
Oui, d'accord, un vrai danger public.
S'il y a danger public, on l'applique bien à des pilotes d'avion, à des gens qui manipulent des machines compliquées.
C'est vrai.
La voiture peut tuer, voilà. Et je suis aussi monté avec des gens d'un grand âge où c'était mais c'était un film côté.
C'est ça. Moi je suis aussi monté avec des gens.
Ces gens-là ont de la chance.
C'est une catastrophe.
Non mais il y a un bon Dieu pour ces gens-là. Il y a des moches qui
c'est
comme ça.
C'est vrai.
Voilà. Et ils me disaient t'as peur, hein, t'as peur. Je dis mais non, mais je me dis m'arrive rien. Et je connais des gens de 94 ans qui disent impeccablement. Je connais des assassins de la route à 45 ans.
Cela, même plus jeunes.
Cela aussi, c'est un annexe à notre débat.
On ne va pas supprimer le permis à tout le monde.
Là, les gens qui ont une double récidive mortelle.
Dégénérescence physique.
On est dans le pénal. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Oui, il faut. Je pense qu'à partir de. Alors, soit un accident de santé où on vous demande de vérifier, accident sur la vue ou accident mental, on vérifie, sans repasser le permis. Si on le repasse, on l'a tous perdu.
Ce qui est proposé là, ce qui est en vigueur dans un certain nombre de pays européens.
Elle propose un âge, Pauline?
Non. Oui, entre 60 et 72, 70 ans.
C'est ce qui se passe dans la plupart des pays étrangers.
Je trompe d'époque.
Mais encore une fois, ce qui se passe à l'étranger, dans la plupart des pays européens, c'est un contrôle de l'état de santé, de la capacité. Au niveau de la santé, d'un pouvoir. On ne fait pas un contrôle ni du permis de conduire, ni du code de la route.
Oui, voilà.
Je propose vraiment du contrôle technique de la bagnole. On passe aussi le mec devant un médecin, le même jour.
Mais oui, dedans. C'est tous les 3 ans.
Tous les 3 ans, un petit appareil dans l'œil, machin, truc, le truc,
t'as combien j'ai de doigts. T'as des gens qui vont changer de voiture avant de faire le contrôle technique, comme ça.
Et en Italie.
Les gens riches, ils n'auront jamais de contrôle médical, ils changeront de bagnole tous les ans.
Et Italie et Portugal, c'est à partir de 50 ans.
50, ouais.
Donc sinon, on passe.
Ça, c'est la vue, ça.
C'est l'ensemble.
Ouais,
c'est vrai qu'il y a des maladies dégénératives.
C'est un contrôle de santé. Ouais. On fait un petit check-up. Alors, c'est la collectivité qui le paye ou non, dans l'esprit. Oui, enfin, ça dépend des revenus. Moi, je dirais, c'est en fonction des revenus. Et mais ça permet de faire comme le service national, un petit audit sur l'état de santé de la population.
Ah, ben non, sur la santé, ça peut pas être en fonction des revenus. Le principe de base en France, c'est que tout le monde doit être soigné.
Non, mais si on t'impose un contrôle, on peut dire aux gens qu'ils sont très riches.
Le contrôle technique, il n'est pas en fonction de si tu gagnes de l'argent.
Moi, j'aurais adoré qu'il y ait une loi.
Bah oui, mais tout le monde le
paye. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait une loi pour nous aider avec mon grand-père. Vraiment, j'aurais adoré lui dire, écoute, papa, t'as pas passé l'examen, on est obligé maintenant de se faire aider par la loi. Parce que nous, la famille, on n'ose pas.
Alors, il est vrai qu'il y a des gens qui en ont besoin pour vivre, y compris des gens, des agriculteurs très âgés. Si on leur tire la bagnole, eux, ils sont mal.
Rémi, justement, vous avez plein de sujets sur l'application RMC.
Oui, des messages notamment de Audrey qui nous écrit sur Direct Studio. Le permis à repasser tous les 10 ans, oui, mais pas pour tout le monde. À partir d'un certain âge, c'est ce qu'on se dit. Moi, je voudrais à partir de 60 ans, leur faire passer une sorte de validation des acquis tous les 2 ans. Car beaucoup de
deux ans
oui, c'est ce qu'elle nous dit.
Les taux se resserrent.
Parce que beaucoup de choses concernant le code de la route ont évolué. Et sans parler, évidemment, des modèles de voitures. Imaginons quelqu'un qui a aujourd'hui 70 ans et qui s'achète une voiture électrique ou hybride, ce n'est pas du tout le même type de conduite qu'avec une voiture thermique qu'il avait au départ.
Oui, c'est sûr aussi. On est avec Nicolas qui nous appelle de Monteux dans le Vaucluse. Bonjour Nicolas.
Bonjour l'équipe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Nicolas dans Estelle Midi. Vous êtes favorable, vous justement, à des visites, des contrôles médicaux en fait pour garder son permis ?
Alors ouais, moi je suis assez favorable. Il y a trois petites choses. Déjà, ne plus avoir le permis n'empêche pas de conduire. On peut avoir une voiture sans permis.
Ah oui.
Ah oui, c'est vrai.
Sans dans le délit, on peut avoir une voiture sans permis.
On est quand même aussi dangereux, vous êtes d'accord, si on est aveugle.
Non, tu vas manger. Elle est moins grosse.
Mais si on est aveugle, on est que voilà.
Ah bah oui.
Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas la mobilité.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça la contraint énormément. Moi, je suis favorable. Je pense qu'il y a quelques années, même quelques mois, j'aurais dit non. Puis en fin de compte, ça fait 15 ans, 20 ans que je faisais de la moto sur circuit de vitesse. Mm-hmm. Et là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et j'en parlais il y a une semaine avec un copain. Où je lui disais, écoute, je sais pas si ça a une correspondance, mais je vois ma concentration et ma vue.
Acuité, ça s'appelle l'acuité.
L'acuité visuelle, les réflexes qui ont diminué.
Vous avez quel âge ?
J'ai 43 ans.
Ma
femme, tout le monde dit que je conduis très très bien, mais moi je sens que c'est plus comme avant. Je roulais sur circuit, ça faisait des pointes à 300, forcément on a des réflexes qui sont. Et là, je sens que mais en fait, on prend avec soi-même dans l'histoire.
Mais Nicolas, pourquoi vous n'allez pas chez le médecin de vous-même
Mais très bien. Sauf ce que moi je vois en dégressif, aujourd'hui à 43 ans, quelqu'un qui en a 50 ne va peut-être pas avoir cette franchise avec soi-même en fait. Il va peut-être pas se dire, attendez, j'ai 50 ans, j'ai 55, j'ai 60, il va pas. Moi je me suis aperçu que ça a été.
D'accord, vous en êtes rendu compte. Okay.
Vous avez vu un ophtalmo alors à ce moment-là.
Pardon ?
Allez voir un ophtalmo, il va déjà vous rassurer.
J'ai aucun problème de vue. En fait, ma vue, elle est impeccable.
C'est des réflexes à 300
km/h. Ah, c'est bien la cuite, d'accord. C'est l'appréciation.
C'est la marge,
vous êtes en train de dire que vous sentez que vous vieillissez un petit peu, quoi.
Oui, qu'il y a moins de réflexes à 300 km/h.
Et ça n'ira pas en s'arrangeant, Nicolas. Ça n'ira pas en s'arrangeant.
C'est le doyen de l'émission qui le dit.
Sans me faire gonfler les chevilles, avant, j'étais peut-être à 110, 120% de concentration. Ah. Et je suis peut-être passé à quelque chose de normal de 95. Mais cet espace-là, en 2 ans, je l'ai vu descendre.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire si j'arrive à l'expliquer. Sauf qu'avec les années qui passent...
Ce sera pire en pire.
C'est de pire en pire. Et c'est juste une histoire d'être franc avec soi-même.
Ok, donc vous êtes pour les contrôles.
Quand on a 50 ans, on n'a plus les réflexes que quand on avait 40.
Oui, enfin 50 ans, c'est jeune quand même, parce que j'ai 46 ans bientôt. Donc je préfère commencer.
Toutes les fonctions physiques, ça me nuise, hein, toutes les manières.
Exactement. Merci en tout cas Nicolas d'avoir été avec nous. Évidemment notre invité sur ce débat, c'est Pierre Chasseret, bien sûr, secrétaire général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Salut Estelle, bonjour à tous.
On est assez favorable à ces contrôles là autour du plateau.
Ah oui, je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais être favorable. C'est bien, regardez, écoutez. Évidemment, je suis ironique. On a déjà 1 million de conducteurs sans permis. Pourquoi pas un peu plus ? On a un million...
Excusez-moi, non mais attendez, les conducteurs sans permis, Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas avoir leur permis ? Enfin, pardon.
Parce que je vais vous expliquer en quoi c'est une bêtise, Estelle.
Ah bon ?
En fait, déjà, ce que je me rends compte, c'est que tous ceux qui sont pas concernés sont tout à fait OK pour l'appliquer aux autres.
C'est ça.
Alors, ça
quand on aura 80 ans, on sera
voilà. Quand on a 40, on trouve que le danger, c'est à partir de 50. Quand on a 50, on trouve que c'est à partir de 60, etc. Donc, je trouve que pour cliver l'opinion publique, il n'y a pas mieux. Ensuite, c'est un message que je vais adresser à tous les automobilistes qui m'écoutent là. Et qui se disent, ah oui, moi, je suis plutôt favorable, mais pour les autres, pour ceux qui sont beaucoup plus âgés. Ouais, mais amis automobilistes, il faut être unis, solidaires et ensemble. Parce que le jour où on commence à accepter de se cliver entre nous, on a perdu les combats.
Et là, c'est pas de se cliver, c'est la sécurité routière, c'est la sécurité de tous, Pierre, ben là, c'est pas trop. Clivant. Et moi, je le fais à mon âge, Pierre, il n'y a pas de souci. Moi, je serais capable, on me dirait d'aller contrôler ma vue. Moi, je suis
non, j'y vais.
Si j'ai des problèmes de vue, j'irai.
Estelle.
Quoi?
Parce que la population qui a le moins d'accidents, c'est justement les plus âgés.
C'est les plus
prudents. Oui, parce qu'ils conduisent le plus lentement.
Ils sont prudents.
Mais peu importe, c'est ceux qui ont le moins d'accidents.
Mais les accidents les plus graves.
Non,
en termes de mortalité, si.
Non, en termes de mortalité, non, Rémi. La population la moins impliquée dans les accidents mortels, ce sont les seniors.
Oui, mais ils ne se tuent pas eux-mêmes, ils tuent les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un problème.
Le pourcentage, c'est les moins accidentés.
Mais enfin, excusez-moi.
Impliqué dans un accident mortel, impliqué, c'est les moins impliqués. Autre point. Je voudrais quand même qu'on pense en France et qu'on arrête de vouloir réinventer l'eau chaude ou enfoncer les portes au pied de biche. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Moi, je suis pour une communication là-dessus. J'ai entendu, je sais pas qui, autour du plateau, a dit « Moi, si j'avais su, si la loi m'avait aidé, s'il y avait un dispositif qui permettait de le faire, j'aurais pu le faire. » Eh bien, vous savez quoi? Le dispositif existe. Il est possible aujourd'hui de réunir des commissions médicales sur avis du médecin ou sur avis de la famille pour faire en sorte que quelqu'un puisse passer devant une commission médicale d'aptitude au permis de conduire. Ça existe déjà.
Oui, mais dans la vraie vie, c'est très compliqué d'aller voir son père et de dire « Écoute, papa, je suis un peu inquiet pour toi. » Alors, on s'est tous consultés. On pense que t'es devenu vieux, trop vieux, etc. Donc, tu vas aller chez le médecin et on pense tous. C'est compliqué. Dans la vraie vie, Pierre Chasseret, vous savez, la vraie vie est parfois plus compliquée que dans les débats comme ça. Ouais, c'est compliqué de faire ça. Alors que s'il y a une loi qui dit « À 75 ans, tu vas voir ton père, tu dis « T'as 75 ans, je t'appelle chez le médecin. » Il dira « Ok, super, on y va ensemble. »
Et ça se passera beaucoup mieux. La remise en question du permis de conduire, on l'imagine que pour les seniors.
C'est mais là, c'est pas
mais non, on parle de ça, c'est pour ça. On a dit
c'est
non,
pour ça qu'on parle de ça.
Mais même si on sait que la plupart des gens ont des problèmes de vue aux alentours de 40-45 ans, il y a la vue qui baisse. Moi, je serais encore une fois, Pierre, moi, je serais pas contre avoir un contrôle à 45 ans juste pour la vue. Évidemment, on va pas aller contrôler mes réflexes à 45 ans. Et ben, il y a pas de problème.
Prenez votre carte chez 40 millions d'automobilistes parce que c'est notre discours. Qu'est-ce qu'on dit actuellement? Je suis allé voir les syndicats de médecins généralistes. Ils refusent catégoriquement de mettre en place ce système. Donc à partir de là, ça sert à rien de tergiverser. Mais parce qu'aujourd'hui, dire à leur patient qu'il ne va plus pouvoir se rendre chez le médecin, c'est compliqué.
Comment ça?
Oui, quand vous êtes en zone rurale et que vous êtes à 15 km d'un médecin et que vous avez que votre voiture pour y aller.
Mais Pierre Chasseret, c'est déjà ce qu'ils font avec ceux qui ont des problèmes d'alcool. Vous savez très bien qu'il y a déjà des médecins qui sont dans les commissions quand il y a des problèmes d'alcool chez les gens.
Puis moi, je vais vous dire, dans mon village, on s'emmène les uns les autres, les personnes âgées du village. Il y a toujours quelqu'un pour les véhiculer chez le médecin, chez le kiné. Ça s'organise à solidarité.
Moi, le yaka faucon, c'est pas mon truc.
C'est pas ce qu'on dit.
Je regarde ce qui est possible et pas possible. À partir du moment où les médecins disent on le fera pas, on le fera pas.
Mais attendez, c'est pas parce qu'un syndicat vous a dit ça que tous les médecins sont. Vous savez, la plupart des médecins
ont plein de bon sens. Et puis attendez, Pierre Chasseret, excusez-moi, mais juste là, ce qu'on demande, encore une fois, c'est pas un examen, mais on va pas demander aux gens de faire un PET scan. Je veux dire, excusez-moi, c'est pas un examen médical très poussé, c'est le contrôle de la vue et peut-être le contrôle des réflexes. On n'est pas obligé de demander à un neurologue de faire ça. Peut-être qu'il peut y avoir effectivement des infirmières de pratique avancée ou ce genre de choses.
On en vient à la proposition que j'adresse avec 40 millions d'automobilistes. La remise en cause du permis de conduire, le jour où ce sera fait, le jour où il y aura le pied dans la porte, je peux vous assurer qu'on sera les premiers à avoir notre permis remis en cause. En revanche, moi, voilà ce que je propose. Un truc très bête. J'ai consulté les syndicats d'opticiens aussi et les ophtalmos. Moi, je propose un examen de la vue réalisable chez un opticien. C'est un examen de contrôle. Et cet examen, on pourrait le conditionner, ne serait-ce que tous les 15 ans, quand il y a le renouvellement du permis européen, parce que maintenant, c'est une petite carte, c'est plus un document rose qui est attribué. C'est qu'on pourrait faire en sorte que, déjà, à chaque renouvellement, c'est déjà pas mal, eh bien, on invite, pour avoir le renouvellement automatique du permis, pas de remise en cause, à un contrôle de la vue. Ce contrôle de la vue permettra une prise de conscience chez certains, et ça sera très bien. Et ça permettra d'avoir des solutions, notamment des solutions adaptées pour faire des lunettes. Parce que si vous dites que ça doit passer par les ophtalmos, ouais, très bien, c'est rigolo la mascara.
Mais non, j'ai pas dit ophtalmos, justement, j'ai dit infirmière de pratique avancée ou opticien, ou voilà, si c'est juste un contrôle de la vue.
Eh bien, ça, c'est une mesure symbolique parce que la vue, c'est le gage, c'est le premier gage garant de la sécurité.
Oui, mais pourquoi pas aller plus loin, Pierre Chasseret? C'est ce monsieur de 92 ans. Imaginons qu'il avait une bonne vue, mais qu'il avait par ailleurs une acuité globale.
C'est rare d'avoir une bonne vue à 92 ans.
Oui, non, mais imaginons que le problème soit pas la vue, mais que ce soit autour. Ouais. Il s'est endormi au volant. Oui, vous pensez pas, Pierre Chasseret, que ça aurait été une bonne idée qu'il aille voir son médecin quelques mois avant et qu'il lui dise, bah, mon cher monsieur, va falloir. En plus, à Paris, il va falloir résoudre.
Alors peut-être aussi, à partir de 90 ans, peut-être enlever le permis aussi.
Bah, peut-être.
Alors je vous réponds sans concession, en deux points, mais faut me laisser. Hein. Le premier point, c'est la responsabilité première, c'est la famille. Qui n'a pas percuté qu'il fallait à un moment donné faire réunir une commission médicale pour ce monsieur qui avait 92 ans et plus aucune aptitude à la conduite. Il y a des textes réglementaires, ils existent. Si la famille ne l'a pas fait, franchement, si les enfants, les petits-enfants ne prennent
mais
pas
leur responsabilité... Mais vous voulez qu'on parle de la solitude des personnes âgées, Pierre Chasseret, tout le monde n'a pas une famille.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vais vous donner, vous me dites qu'est-ce que vous répondez à, pour ce monsieur de 92 ans qui a eu un accident.
Bah, il est mort aujourd'hui, mais oui.
Mais attendez, je vais vous donner un autre point, moi. Tous les week-ends en boîte, vous avez des jeunes qui meurent d'alcool au volant. Bien on n'interdit pas les jeunes d'avoir de prendre le.
Bien sûr, mais c'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'il faut pas évoquer.
Non, c'est pas ça. C'est que quand il y a un nonagénaire qui a un accident mortel, ça fait la une de tous les médias de France. Vous avez chaque fois du week-end une hécatombe sur la route de jeunes gamins qui perdent la vie, y compris des passagers à cause de l'alcoolémie au volant. Il n'y a pas un titre. Et pourtant, ce débat-là, on pourrait le faire toutes les semaines. Parce que tous les week-ends, et ce week-end encore, et demain encore, on a des gamins qui vont crever sur la route de l'alcoolémie au volant. Et on n'en parle pas, on préfère se focaliser sur un accident qui a eu lieu il y a plusieurs années. Je connais bien Pauline. Et Pauline Desroulettes, déjà, je l'apprécie, humainement. Et deux, son discours, c'est de dire qu'elle est plus pour un contrôle tout au long de la vie. Elle ne stigmatise pas les plus anciens. C'est là où elle est très intelligente, d'ailleurs.
Tout à fait.
Et ce que j'aime dans le discours de Pauline, c'est quand je lui ai formulé ma proposition sur la vue, a trouvé que c'était pas si bête que ça.
Ben oui, mais on est tous d'accord hein, pour, pour au moins un contrôle sur la vue, c'est déjà le principal.
Et ça coûte
quand on
rien à personne.
Oui, mais alors le problème, c'est que si par exemple l'opticien dit, écoutez monsieur, vous avez plus du tout 10 sur 10, vous avez 3 sur 10 à l'œil gauche et 2 sur 10 à l'œil droit. Si le conducteur dit, bah écoutez, merci du renseignement,
non, mais il
et repart avec sa caisse, bon bah là pour le coup.
Non, Estelle, parce que la population qui s'auto-régule le plus sur la route. C'est celle qui a besoin parfois de prendre conscience. Bien sûr que nos aptitudes déclinent, c'est comme ça. Et si vous dites à quelqu'un, monsieur, vous n'y voyez plus à 2,50 m, on peut même plus faire des lunettes, là, c'est des loupes. Bon, ben, à partir de là, je pense que cette personne prendra conscience. On n'est pas tous entourés d'une famille qui a le courage ou la possibilité d'expliquer ça à quelqu'un. Je le conçois, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un médecin a lui aussi la capacité de saisir les commissions médicales. Il n'y a pas que la famille.
Non, mais c'est, ça, c'est bien de le rappeler parce que tout le monde n'était pas au courant. Moi, personnellement, je ne le savais pas. Luc nous appelle d'Albi dans le Tarn. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour.
Luc, est-ce que vous êtes pour des contrôles du permis de conduire tout au long de la vie, qu'on ne puisse plus avoir un permis à vie, justement?
Alors, moi, je ne suis pas pour stigmatiser les personnes âgées. Mm-hmm. Et je suis pour rendre beaucoup plus responsables ceux qui sont responsables d'un accident corporel. Parce qu'effectivement, la personne qui perd une jambe, la personne qui va se retrouver en fauteuil, la personne qui va se retrouver avec un gros pépin physique, hein, si on a un accident et qu'on a causé un dégât corporel, je vais dire significatif, alors après, c'est une évaluation, hein, je ne parle pas d'une entorse au poignet.
Bien sûr.
Et ben, ces gens-là, effectivement, on devrait analyser si effectivement c'est leur état de santé ou autre chose, ou leur comportement routier qui a entraîné un accident. Si on roule correctement, je suis désolé, et qu'on respecte le code de la route, moi j'ai 50 ans de permis, peut-être pas 50 ans, allez 45 ans de permis, j'ai jamais causé un accident corporel. J'ai eu un ou deux petits dégâts matériels comme tout le monde. Voilà. Donc j'allais dire, il y en a marre des gens qui se collent sur les autoroutes, il y en a marre des gens qui font... Oui. Ce qui m'est arrivé l'autre jour, Albi, Toulouse. La personne trouvait que je me rabattais pas assez vite, eh ben elle a doublé, elle, en dehors des cônes de travaux. Vous voyez, sur la ligne où il y a les travaux, les gens qui travaillent. Voilà. Et eh ben ça, eh ben je trouve que cette personne-là, si elle cause un accident corporel, on va analyser son comportement, et psychique, et physique. Il n'y a pas que la vue, et il n'y a pas que les seniors.
Ça tient la route.
Non, non, on est d'accord, mais ça, c'est pour des contrôles. Extrêmement. Ouais, des contrôles à vie. Et le problème, c'est qu'après, c'est un contrôle qui se fait à posteriori.
Quand il n'y a rien eu.
C'est quand il n'y a rien eu. Nous, moi, je suis sur une autoroute qui relie Dijon à l'A6, qui s'appelle l'A38. Et il y a quelques années, il y a un vieux monsieur qui a pris cette autoroute à contresens. Oui. Parce qu'il voyait pas. Ça arrive souvent. Il n'y a pas eu d'accident. Un truc de malade. Et on a tous réussi, parce que moi, j'y étais à ce moment-là. On a tous réussi à l'éviter, à klaxonner. Je pense qu'on a tous appelé la police très, très vite pour aider ce monsieur et nous aider, nous. Il ne s'est rien passé au final. Et pour autant, je ne sais pas ce qui est devenu ce monsieur. Est-ce qu'on lui a ôté son permis? Est-ce que la famille. Je ne sais pas. On ne sait pas ce que c'est devenu.
Il faut espérer quand même que quand vous avez votre grand-père qui conduit à contresens sur l'autoroute.
J'espère.
Je vous espérais qu'on lui enlève son permis et qu'on ne dit pas, papy, tu feras attention la prochaine fois.
Tu sais que ça fait bizarre, hein, quand tu es sur l'autoroute, que tu as 130 et que tu vois quelqu'un qui arrive en disant, il y a un problème là. Il y a un problème, ça fait très étrange.
Et c'est vrai que ça arrive plus souvent aux seniors que
Et toi, t'as les enfants dans la voiture et tu dis.
Sur la 38,
on va s'en sortir. C'est souvent sur la 38, c'est ça.
Il faut vraiment faire gaffe dans ces régions-là. Merci en tout cas, Pierre Chasserelle, d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs qui nous ont appelés. On va terminer avec des messages, Rémi, et le résultat de la consultation sur Twitter.
Ouais, message notamment de Fabrice qui nous dit: faites comme nous, les routiers, tous les 5 ans, nous devons faire une mise à jour de notre capacité à conduire. Peu importe l'âge.
Et le disque dans la voiture.
Ça très bien.
Qui dirait ce qu'on a fait comme infraction, ça serait horrible, mais bon.
Alors, est-ce que les Français sont pour, en tout cas, les internautes?
Non. Ils sont contre pour 63% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Mais tu sais quoi? C'est pas comme ça, parce qu'il me semble qu'on avait fait ce sujet il y a un an. Et
ça a évolué.
De mémoire, on était plutôt à 85%. Donc
mais la voiture, c'est sacré quand même.
On avait une Pauline au téléphone, Déroulède.
Exactement. Qu'on embrasse d'ailleurs, Pauline Déroulède. Ouais, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On va se demander si vous allez moins dépenser pour les fêtes. Et puis alors, attendez.
Ah bah ça, oui.
La suppression du minibar dans les hôtels. Mais moi, aujourd'hui, on me supprime mes vols.
Quoi?
Vol intérieur. Le minibar dans les hôtels. Mais moi, j'ai plus fait.
C'est une blague.
J'ai plus rien.
Tout ça sort.
Eh ben, du zapping.
Je vais faire un malaise.
Ben, et moi, de vous
faire. Je suis pas d'accord.
On peut plus prendre des mignonnettes à 45 euros.
Les Russes. Chérie, mais comment vont-ils survivre?
Les Russes qui vivent des livres.
Mais écoutez, je ne sais pas. Et puis alors, ça va vous intéresser. Dites-moi votre prénom et je vous dirai si vous êtes infidèle. Oula. Il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites et on va vous dévoiler dans un instant les prénoms.
Perico, c'est très infidèle.
Perico,
c'est des choses.
Je suis un socle immuable.
Ouais, mais Perico, c'est Pierre. Donc il faut voir si Pierre fait partie de cette liste. Le suspense est insoutenable. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23, on est dans Estelle Midi, il est 13h32, c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter le meilleur d'RMC avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Benjamin Muller. On va commencer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Allez-vous moins dépenser pour les fêtes? Selon une étude IFOP, un Français sur deux indique que son budget cadeaux et repas sera inférieur à celui des autres années. Mais pour Marie, qui témoignait ce matin dans les GG, pas besoin de mettre le prix pour faire plaisir.
C'est-à-dire que dans la question, faire un cadeau à la hauteur de ce que les autres attendent, ça me choque énormément. Depuis quand on attend un cadeau cher ou pas cher? Ce n'est pas ça, c'est pas ça Noël, c'est le plaisir d'être ensemble. Pour les cadeaux, ce que je fais, c'est que je fais fait main. C'est-à-dire que je sais tricoter, je sais faire du macramé. Et là, je fais chaque année un cadeau personnalisé. À mes filles, c'est à l'une, c'est des guêtres parce que je sais qu'elle en veut. L'autre, c'est un béret. Mon gendre aura des chaussons. Mon petit-fils, puisqu'il risque de faire froid, c'est un grand pull bien chaud pour l'intérieur. Pour moi, le plaisir, c'est justement de faire la main parce que je pense à la personne à qui je le fais. Je le fais avec amour et ils sont toujours ravis parce que c'est quand même une surprise. Ils ne savent pas ce que je vais faire.
Comme les Doobie Choux.
Est-ce que l'important, finalement, pour ce Noël, Emmanuel Dancourt, c'est le cœur, voilà, c'est d'être avec ceux qu'on aime et les cadeaux, on s'en fout?
Non. Moi, si je dis à mes gamins, les cadeaux, on s'en fout, ça va jamais passer. Hein. La grande chance de mes enfants, c'est que je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Ah. Donc, je ne peux pas fabriquer le cadeau. Je suis absolument obligée de l'acheter. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vous, comment vous faites. Non, vaut mieux pas pour eux. Moi, j'avais tendance à offrir 2, 3, 4 cadeaux par gamin et à mettre à peu près le même budget dans chaque enfant. Là, on va être très clair. Cette année, ce sera un cadeau.
Et ils le savent, et je crois que ça leur pose aucun souci. Un cadeau très choisi, je vais mettre mes parents dessus, je vais mettre mon mec dessus. Comment?
Je rigole, même pour Arthur, qui est quand même votre préféré.
Pour Arthur, il y aura peut-être deux, quand même.
Mais Arthur, il a fait sa liste. Il a fait sa liste, et c'est très intéressant comme liste à lire. Et donc voilà, non, honnêtement, on va réduire, hein, et puis pour le repas aussi, mais c'est pas très grave.
Vous allez réduire,
c'est pas très grave. Ah bon, on va faire. En plus, on est que nous cette année, que moi et les enfants, donc on va faire ça ensemble, mais on va mettre moins cher. On va juste mettre moins cher dans les ingrédients, puis on va pizza. Être un peu plus créatif, ça va être marrant.
Une petite pizza.
Vous allez revenir sur votre budget ou pas, vous, Benjamin Muller?
Cadeau, oui, pour des raisons d'économie d'argent et aussi pour des questions de remise en question écologique de notre manière de consommer. C'est vrai que moi aussi,
on
a un peu été là à leur offrir un peu mais même des conneries. C'est-à-dire des trucs qu'on va acheter en octobre et puis se dire, tiens, on l'offrira en plus. Et au final, ils ouvrent 5-6 cadeaux, il y en a qu'un qui plaît vraiment.
Exactement.
Et d'ailleurs, vous vendez les autres comme tout le monde.
Oui, mais même c'est le trop plein. Je suis pas sûr que les enfants, ils soient vraiment contents au-delà de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cadeaux. Des fois, c'est vraiment trop. Quand il y a les grands-parents avec, vous savez, ça va vite, les oncles et tantes, si chacun offre un cadeau. Donc, nous, on a mis en place un petit système très pratique où, en gros, on se tire tous au sort entre les adultes, comme ça, on fait qu'un cadeau, du coup, on fait un bon cadeau.
Et un adulte tire un enfant.
Chacun fait un peu ce qu'il veut.
Enfin, il tire un papier.
On s'est compris. On s'est compris, Estelle. Et par ailleurs, moi, je trouve que ce qui peut être très bien de suggérer aux grands-parents, donc mon père typiquement, c'est d'offrir des moments avec les enfants. C'est-à-dire que plutôt que d'offrir un jeu, un truc en plastique, un machin, pour les enfants qui croient plus à ce qu'il faut croire, eh ben, il va offrir un moment. Typiquement, je vais t'emmener pendant un week-end, on va aller à Euro Disney si on a les moyens, ou alors dans un parc, dans un musée, etc. Passer un moment juste avec son grand-père.
Et je pense que ça t'offre pas, ça, en fait.
Bah, si, pour un enfant qui a 12 ans, qui croit plus, un petit bon pour dire, je vais t'emmener passer un moment au château de la Loire tous les deux. Ça, c'est des cadeaux qui restent.
Alors, moi, j'ose pas le dire parce que si ma fille aînée, elle écoute, mais je vais l'emmener voir un spectacle qu'elle rêve d'envie de voir. C'est un moment qu'on va passer ensemble. Il n'y aura rien d'autre.
Comme spectacle.
Dorothée, c'est fini, hein.
Starmania.
Starmania. C'est bien. En plus.
Capucine, t'écoutes pas, hein.
Je crois qu'il n'y a plus de place, ouais. Je crois que c'est compliqué de
trouver. Ouais, mais Emmanuel, c'est une habitude. Elle a réussi.
Tu me connais pas.
Je peux vous dire que moi, j'ai pas attendu cette année. Tous les ans, il y a une gueulante depuis. Dans ma famille, quand je vois le nombre de cadeaux qui augmente par enfant, mais je me rends dans des colères. Les mamans m'expliquent toutes, évidemment, que non, machin. Souvent, c'est des petits cadeaux qui sont là. C'est pour avoir du volume sous le sapin. Ça me rend fou. Et j'applique cette éthique depuis très longtemps. 2-3 cadeaux, c'est déjà pas mal. Moi, j'en avais. Et j'étais dans un milieu aisé, vous voyez. Et là, c'est. Mais quelquefois, c'est 8, 10, 12, et on ouvre. Alors, vous savez à quoi je passe ma soirée de Noël? À récupérer les papiers d'emballage cadeaux pour l'année prochaine.
Donc, alors là.
Alors, j'adore. Je hurle quand il. Je ne déchirais pas. Alors, je retire le scotch moi-même. Alors, je repasse le papier cadeau, je refais le visage. Je garde des boldis. Et alors, l'année prochaine, au mois de novembre, déjà, est-ce que tu as gardé du papier pour l'année prochaine? Je n'ai pas fait ça avec la ficelle des rôtis encore, mais ça va venir assez proche. Il faut tout économiser maintenant.
Mais c'est que le monde est divisé en deux catégories, ceux qui arrachent les paquets, qui déchirent les paquets, et ceux, moi ça me rend ouf.
Ah, mais ça me rend
dingue.
Vous déchirez, vous non, au contraire.
Ça fait partie du plaisir de déchirer.
Quand je vois mon fils qui est là, et je pense que je pense qu'il se fout totalement de ce qu'il y a derrière, et il va, mais alors vraiment faire hyper attention. J'ai qu'une envie, c'est de lui retirer le cadeau des mains et de l'arracher à sa place.
Félicite, c'est Garin.
Merlin.
Félicitez-le.
Ce nom-là, enfin, ça me dit rien en tout cas.
Je comprends que non, parce que j'ai un copain qui.
Moi, ça me rend complètement dingue ce genre. C'est vrai que
félicitez-le.
Moi, je suis partie de la team de ceux qui déchirent, hein, on va pas se mentir. Hein.
Félicitez-le.
Mais il a raison, mais bien sûr qu'il a raison.
Je vais le féliciter.
Bisous Merlin.
Extrait des GG ce matin. L'écologie est-elle en train d'enterrer tous nos plaisirs? Trop énergivores et pas écologiques, les hôteliers décident pour la plupart de supprimer le petit frigo, le petit minibar où l'on trouvait dans les chambres, entre autres, des mignonnettes d'alcool, la fin d'une époque qui désole le professeur d'économie Thomas Porcher. Et moi également.
Je comprends pour les raisons énergétiques, mais là, ça montre vraiment la fin d'une époque, quoi. Ouais. C'est-à-dire le mec qui va dans son mini-bar, dans les hôtels à l'époque avec sa clope, là.
Le whisky.
Et avec finito, la petite mignonnette de whisky.
Son peignoir.
Les petites pistaches, la canette de
whisky. Bah voilà, il y avait un truc quand même, c'est DSK, une époque qui s'effondre. Mais comment va-t-on faire les after-parties?
Quand tu dans les
à l'hôtel after party où là tu offres ta petite bouteille
mignonnette
et voilà, et quand t'en mets 2-3 c'est que t'es nos limites parce que ça coûtait 15 balles la petite bouteille. C'est la fin d'une époque.
C'est génial. Parce que moi, j'en peux plus de ces frigos, non pas pour ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça fait du bruit la nuit, ça se met en route. Moi,
ah non, mais tu as toujours le frigo? Ah non.
Non, tu les débranches.
D'accord, mais tu as toujours le frigo qui sera là.
Non, mais supprime les frigos, Péricot.
Non, il supprime les frigos.
Ah, mais c'est un confort. Bah, pas tous, c'est un confort incontournable. Si on a des courses, si on veut s'acheter des choses pour la chambre, voilà.
Et moi, surtout, j'achète mon alcool, c'est moins cher, et puis je le mets dans le
il supprime ce qui est à l'intérieur du frigo ou le frigo?
Non, il supprime le frigo. C'est le groupe Accor qui va supprimer ça dans un certain nombre de ses hôtels, dans beaucoup d'hôtels d'ailleurs, au titre de sa politique de réduction
environnementale. C'est environnemental, c'est pas contre l'alcoolisme, d'accord.
Mais non, c'est dans les frigos. C'est-à-dire que, par exemple, tu aurais été acheter du coca moins cher à la supérette et tu pourras même plus le mettre dans le frigo de l'hôtel. Voilà, tu pourras plus. Et ceux qui ont des médicaments à laisser au frais, ils ne pourront plus non plus.
Mais tu laisses dans le frigo de l'hôtel.
En plus, ça.
Non, c'est pas une catastrophe, ça permet d'économiser de l'électricité. Le groupe Pasteur, c'est des milliers d'hôtels dans le monde.
Ils sont assez à point.
Pour le commerce, c'est pas bien. Quand les Russes venaient, c'était formidable. Ils mettaient toutes les frites dans la
dépression.
Ils mélangeaient tout. Ils se faisaient un cocktail.
Mais non. Ce sera pour les Russes.
Les Russes ou les Chinois, enfin.
C'est la fin d'une époque.
Estelle, je vous donne une petite astuce.
Oui, allez-y.
Vous appelez le room service, vous demandez des glaçons. Ils vous les montent et votre coca, il sera frais.
Non, c'est les médicaments. De toute façon, c'est ça qui compte.
Ou bon, les médicaments, ça, je sais pas trop comment ils vont. Mais de toute façon, les frigos, ils sont pas frais. Je sais pas si vous avez déjà mis une.
C'est vrai. Hein.
Vous mettez une bouteille de champagne, c'est de la boire, c'est chaud. Si c'est pas des frigos frais, donc c'était.
J'aime l'idée de la voir.
Oui, bon.
C'est comme les
avions. Vous avez vu les prix des petites fioles de
whisky. C'est un confort. Et c'est un art de vivre. Je suis d'accord. Mais culturellement, ça veut dire qu'on va tout nous retirer. Il y en a ras le bol.
Exactement.
Il y en a ras le bol. Et un jour, on va coucher sur de la paille parce que
le. C'est juste des frigos de boire un fond de whisky. On dirait les livres de Welbeck, le VRP déprimé.
Et ben. Tu vas à l'hôtel. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera plus que dans les suites. Bah super. Et encore une fois, voilà, tu vas
le
avoir
le petit bitter sans Pellegrino, vous savez, rouge, qui était délicieux, qu'on buvait comme ça. Avec, on peut avoir un moment d'intimité avec la personne avec qui on est, envie de boire après.
Moi, j'adore ouvrir le minima. En fait, je ne consommais même pas
un jus de fruits.
J'adore regarder ce qu'il y a dedans.
Un jus de fruits, les petites
fioles. T'avais toujours du jus de goyave, on ne sait pas pourquoi.
Oh, voilà.
Moi, j'avais du goyave en vrai. Mais t'en avais toujours. Ou du jus de tomate.
Si tu travailles en pleine nuit, que t'as envie de jus de tomate, c'est vrai que t'es content.
Ouais.
Un jus de fruits, un jus d'orange.
Mais oui,
ils ont des problèmes de riches.
Il est là. Ça, c'est la preuve que tout fonctionne.
Il n'y a plus le petit plaisir.
Non, mais vous avez des problèmes de riches. Enfin, franchement, vous voyez de quoi vous êtes en train de vous plaindre. Mais sérieux, quoi.
Un petit peu mieux avant.
Mais non, c'était mieux avant. Ça y est,
un tout petit peu mieux avant.
C'est parti.
Je disais discrètement.
On a une planète à sauver, mince.
Mais même ça, vous voyez.
Ah, ben t'as raison. Mais enlevons les minibars, ça sauve la planète.
Mais ça fait partie du. Bien sûr que oui.
Si on va leur enlever en Inde et en Chine.
Si on fait rien. Il va rien se passer. Hein.
Je crois, mais t'as raison. On n'avait pas encore pensé que le problème de l'économie pouvait être résolu en enlevant les minibars. Faudrait le dire à Sandrine Rousseau.
Mais vraiment, c'est un des plaisirs de votre vie, les minibars. Vous trouvez
tout
pas ça
plaisir,
non, moi, ça me met un peu le cafard, les minibars.
C'est cafardeux.
Une petite fiole de whisky, c'est vraiment le côté je suis seul.
Je suppose que vous.
Oui, donc voilà.
J'aime
ça ne pose pas de problème. Enfin, bon,
vous regardez les photos. Qui tourne, j'aime bien.
Mais je suppose que vos frigos, devez avoir une boîte de Montblanc et une bouteille de Vittel entamée. Il n'y a rien dans votre frigo, tout simplement. C'est pour ça.
Il n'y a pas de frigo.
Il n'y a pas de frigo.
C'est dans le jardin.
Bon. Apolline Matin ce matin. Oh, ça, c'est extraordinaire. Dites-moi votre prénom et je vous dirai si vous êtes infidèle. C'est un site de rencontre qui a enquêté auprès de ses membres. Et Quentin Vinet nous a dévoilé ce matin le palmarès des prénoms les plus infidèles.
C'est le site de rencontre extra-conjugale Glidden qui a mené l'enquête auprès de 8000 femmes et hommes qui reconnaissent avoir été infidèles au cours des 12 derniers mois. Et il s'avère que y a des prénoms qui ressortent plus que d'autres chez les femmes. Les Hélène, les Anne, les Julie, les Catherine donc seraient les plus adeptes de la tromperie. Chez les messieurs, ce sont les Patrick, donc les Stéphane et les François qui iraient le plus voir ailleurs. Alors vous allez me dire qu'on n'est pas sur...
Des prénoms qui sont très courants.
Voilà, vous allez me dire ça. Effectivement, on est là sur des adhérents à un site de rencontre extra-conjugal, donc des personnes qui sont nées dans les années 70. On retrouve aussi assez haut dans ce classement des personnes qui vont voir ailleurs des Thomas et des Pierre, si vous en connaissez.
Alors Pierre, on en connaît puisque Perico, c'est Pierre.
J'ai beaucoup vécu.
Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est ce genre d'études. C'est quand même génial. Quoi.
C'est génial et c'est débile.
Qu'on consacre une grande chaîne d'information à ce genre d'aberration.
Bah, c'est notre chaîne.
Mais je vais assumer puisque je suis
mais
quatrième.
C'est notre chaîne.
Bah, d'accord, je suis quatrième. Bah voilà. Mais pas toujours, attention. Mais... Pas maintenant.
Bah, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de jeune prénom. Il n'y a pas Kylian,
Ryan. C'est un truc de vieux de tromper.
C'est un truc de boomer.
Non, mais c'est Glitter, c'est un truc de vieux.
C'est ça.
C'est des prénoms très classiques.
Vraiment ça, c'est que c'est non, mais c'est Glidden. Enfin, c'est donc il recense le nombre. Enfin, en fonction des prénoms des gens qui sont inscrits sur le site.
Oui, oui.
Donc forcément, c'est des sites pour se tromper quand on est marié, enfin, voilà. Oui, d'adultère. Bah, il y a moins de gens, par définition, jeunes mariés que de gens d'un certain âge.
Tu veux dire qu'on trompe à partir d'un certain âge?
Mais oui, non, mais quand, non. Là, c'est un site dédié. Enfin, pour ceux qui veulent se tromper.
Vous êtes déjà allé sur ce site?
Des gens mariés, c'est déjà mariés.
Nous, on n'est jamais allé sur ce site. T'y allais,
non, mais c'est ça.
Non, mais moi, je suis jeune.
Il y a un phénomène. Il y a un phénomène philosophique. On ne trompe que lorsqu'on est fidèle. J'entends. On ne trompe que lorsqu'on a vécu très longtemps. Donc, on a été fidèle. Et à un moment donné, il y a un besoin de diversité.
C'est une belle excuse, ça. On ne l'a jamais servi, tiens.
Les gens qui ont des partenaires. Les gens qui ont des partenaires tous les 6 mois, il n'y a pas besoin de tromper, voilà. Mais quand on a vécu 25 ans avec une personne, toute la gueule en face tous les jours, machin, de temps en temps, on a droit, et la personne aussi d'ailleurs, a le droit de faire une diversion
du couple.
Oui, on sent beaucoup d'amour.
Ça va être bien,
mais ça n'empêche pas. Alors, je vais vous dire, l'infidélité ne porte pas préjudice à l'amour.
Comment on va parler
de... L'infidélité ne porte pas.
Jamais.
Pensez pas vous que ça touche, quoi.
Bah, je suis désolé, dans les pays polygames, ils aiment. Voilà, c'est
ah, bah oui, ça, c'est
sûr. C'est tout. Bah, non, on peut avoir plusieurs amours. Bah non, on peut avoir, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. On l'a fait souvent. On l'a fait dans cette émission. On peut aimer plusieurs personnes à la fois. D'un amour pur et sincère et irréprochable.
Non, on n'a jamais fait ce sujet. Mais c'est une
On peut le faire.
Dans un instant, j'ai on parlera de couple. Faut-il parler de son passé à son conjoint? Est-ce une bonne idée de tout raconter?
Évidemment.
Bien sûr, on attend vos témoignages croustillants. Au 32-16, dites-nous tiens, si ça vous a porté préjudice de trop parler de votre passé à votre compagne ou votre compagnon. Et puis, dans un instant, il y aura Paul Lassen, le journal décalé. Paul Lassen qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h50 dans Estelle Midi, et le vendredi, vous le savez, on accueille toujours Paul Lassen, le journal décalé, c'est
parti.
Estelle Midi,
le journal décalé.
Meilleur jour.
Paul Lassen qui a fait pour nous le tour de la presse quotidienne régionale.
Mais je ne m'attendais pas à un tel engouement en arrivant au plateau, j'ai beaucoup de chance.
C'est notre moment de la semaine. Hein.
Pour l'instant.
Alors, je vais vous camper un peu un décor. Imaginez, vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte qu'on vous a menti pendant toute votre vie, pendant des années et des années. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui est arrivé. Tout petit peu arrivé à une habitante de Saint-Nazaire. Alors qu'elle avait fait une demande de renouvellement de carte d'identité l'été dernier, elle décide de se rendre à la mairie 3 mois plus tard puisqu'elle n'a pas de nouvelles. Et une fois arrivée sur place, on lui pose une question un peu étonnante. Préférez-vous qu'on inscrive veuve ou épouse derrière votre nom? Alors son mari n'est pas mort, non, mais cette femme précise à l'Écho de la Presqu'île, le journal local, qu'en fait, elle n'a jamais été mariée. En tout cas, visiblement, elle ne le savait pas. Il faut retourner quelques années en arrière pour comprendre. Cette pauvre dame, en fait, elle a été mariée en 2009 à un parfait inconnu. Une cérémonie officielle se serait tenue à Guérande. Bah, sauf qu'en fait, non. En tout cas, elle n'y était pas. Donc, elle a enquêté elle-même. Elle a fini par retrouver son mari supposé qui lui habite dans les Pyrénées-Orientales.
J'hallucine.
Mais elle ne comprend toujours pas comment une telle erreur a pu être commise. Surtout qu'elle n'a aucun point commun avec la vraie femme de cet homme.
Ah oui, si il est marié, lui.
Oui, lui, il est marié.
Ah oui, d'accord, oui.
Mais du coup, il n'est pas marié à sa femme, il est marié à cette femme.
D'accord, oui.
C'est extraordinaire.
C'est un fédo, en quelque sorte.
C'est du fédo, oui. Dis-donc, s'il était mort, elle aurait touché l'héritage.
Oui, bien sûr.
Mais c'est attendez,
On sourit, mais ça a des grosses conséquences pour elle. Elle est en retraite invalidité en ce moment. Et du coup, elle est bloquée dans ses démarches pour changer de mutuelle. Sauf qu'elle a l'air un peu têtue, puisqu'elle s'estime dans son bon droit, elle ne veut pas faire de démarche, elle veut que ce soit la mairie qui règle tout pour elle.
Bah non, ça ne marchera pas, ça.
Bah,
on va voir. Mais on peut la comprendre.
Et le mari dit quelque chose.
Le mari ne dit rien. Il reste discret là-dessus. Est-ce qu'il a des choses à se reprocher?
Bah, il est bigame.
L'avenir nous le dira.
Il est déjà marié, lui.
Bah, il est bigame.
Bah, oui,
il est marié avec quelqu'un d'autre. Donc, il est bigame.
Avec quelqu'un d'autre.
C'est très compliqué, là. Bon.
Il est bigame, quoi, c'est tout.
Oui.
Okay. Oui. J'ai une question à vous poser.
Oui.
Quel cadeau pourriez-vous vous offrir à vous-même pour être le plus heureux du monde ou la plus heureuse? À part un mini-bar pour vous, Estelle.
Un vol intérieur Paris.
Un petit parrainon. Moi, je dirais 12 huîtres. Des huîtres, là, tout de suite.
Oh, moi, ce sera toujours des bouquins, quoi.
C'est pas un cadeau. Une trottinette.
Alors, vous êtes des petits joueurs. Laissez-moi vous le dire. Puisque le journal de Saône-et-Loire nous raconte cette semaine l'histoire de David. David, il a 38 ans. Visiblement, on peut croire qu'il est fan de Tom Cruise puisqu'il a décidé de s'offrir tout simplement un avion de chasse.
Ah ouais. Très riche.
Alors, vous allez pouvoir voir l'image sur RMC Story. Ce n'est pas une maquette. Non. C'est un vrai avion de chasse, comme dans Top Gun. Hein. Un avion qu'il a acheté au fils d'un riche propriétaire récemment décédé dans sa région. Donc, on ne connaît pas le prix de l'avion, il n'a pas voulu le dire. Mais David avait peut-être un peu trop investi dans cet achat, puisqu'il ne peut pas se payer de hangar. Du coup, à votre avis, où est-ce qu'il garde son avion?
Dans son garage.
C'est marqué.
Ben non.
C'est marqué devant chez lui quand on lit la télé.
Oui, bon, voilà. Alors, pour nos auditeurs, ce gros avion de chasse est garé dans son jardin, tout simplement, puisqu'il n'a pas d'assez grand garage.
Ça fait une attraction.
Mais t'as le droit.
Mais c'est exactement ça. Depuis qu'il l'a installé, c'est la folie devant chez lui.
Évidemment.
Littéralement, tous les gens s'arrêtent. Il explique qu'il y a au moins 50 voitures par jour qui s'arrêtent et que le week-end, c'est 3 fois plus. Pour autant, il ne veut pas en faire un musée. Hein. Je ne l'ai pas acheté pour qu'il soit visité. C'est mon plaisir et celui de mes proches. Mais visiblement, la plus grande fan de cet avion, c'est sa fille de 3 ans. Qui va régulièrement dedans, elle est complètement fan. Alors, si vous voulez voir cette œuvre, du coup, c'est gratuit. Rendez-vous dans le village de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire.
Ah, très sympa. Oui.
Très joli village. Très, très joli village. Mais dites-moi, c'est un avion français, j'espère, c'est un Mirage ou un Jaguar?
C'est un avion français, c'est un Fiat G91.
Ah oui, oui.
Exact.
Ah, très bien.
C'est original. Quand même.
Oui, une petite dernière. Bah, ça, allez, rapidement. Non, on n'a pas le temps.
Bah, alors, si.
On n'a pas le temps. Alors, Paul, juste une question.
Ça change de Jardin.
Vous qui êtes en couple, Paul, est-ce que vous avez raconté tout votre passé à votre compagne?
Vaut mieux pas.
Ah, oui, parce que Benjamin connaît très bien ma compagne.
Ah, oui, et donc
non, je pense que j'ai gardé des choses pour moi, mais c'est jardin secret.
Qu'est-ce que vous avez gardé, par exemple?
Et vous?
Oh, bah, moi, bien sûr, j'ai un peu enjolivé, bien sûr, mais oui. Sinon.
Ça m'étonne pas de
vous. Bien sûr que non, je raconte rien, vous êtes fous. Dans un instant, on parlera de couple, justement. Faut-il parler de son passé à son conjoint? Est-ce une bonne idée de tout raconter? On attend, bien sûr, vos témoignages. Dites-nous si ça vous a porté préjudice ou pas de tout raconter à votre conjoint.
Vous avez
si
du
vous
mal.
Avez été transparent.
Bah oui, vous savez.
Excusez-moi, ça fait 2 heures que je bosse. Oui, je bafouille un petit peu, mais.
Moi, voilà. Je retourne les pouces.
Un peu plus, oui. Excusez-moi. Donc, dans un instant, on parlera de ça. Et puis, bien sûr, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.